Nzamba.
Nzambira samirana. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de la radio Nzamba Agathe Kakaoué. Tout d'abord les titres. 6 jeunes du parti au pouvoir sont détenus au commissariat de police à Nyabihanga, c'est dans la province de Mwaro. Ils sont poursuivis pour viol sur une femme. La justice burundaise est accusée par la société civile d'être au service de la répression politique. L'heure est à l'évaluation 6 ans après les manifestations contre le troisième mandat de feu le président Pierre Nkurunziza. Vous suivrez dans cette édition Maître Vital Nshimirimana, il est le président de l'ancien mouvement Halt au troisième mandat. Où en est-on avec la vaccination contre la Covid-19 chez les réfugiés burundais vivant au Rwanda? C'est la question à laquelle va répondre le magazine Au cœur de la société, une production de la synergie des radios Inzamba et Humura. Voilà pour les titres.
Inzamba!
Mais tout d'abord, cette triste nouvelle, l'information vient de tomber à l'instant. L'ancien ministre de la Défense, le général-major Cyril Ndayirukiye, n'est plus. Il vient de rendre son âme dans sa cellule à la prison de Gitega, où il purgeait sa peine. Il avait été condamné à la prison à perpétuité dans le dossier de tentative de putsch contre le feu l'ancien président Pierre Nkurunziza. C'était en mai 2015. Deux personnes sont mortes assassinées dans la nuit de ce vendredi. Les victimes étaient soupçonnées de pratiques de sorcellerie et appartiennent à une même famille qui vit sur la colline Nyagutoha de la zone Rusengo. C'est dans la province de Ruyigi, à l'est du Burundi. Ces personnes présumées auteurs de ce crime sont déjà dans les mains de la police pour des raisons d'enquête. Au centre du pays, dans la province de Mwaro, 6 jeunes affiliés à la milice Imbonerakure du parti au pouvoir CNDD-FDD, accusés de viol, ont été arrêtés ce vendredi. Ils sont détenus au commissariat de la police à Nyabihanga. Certains parmi ces Imbonerakure sont accusés d'avoir violé une femme sur la colline Iteka. La population de cette localité appelle à la justice. Le point avec Raoul Ngengurutse.
Selon les sources sur la colline Iteka de la commune Nyabihanga en province Mwaro, les mandats d'arrêt contre ces Imbonerakure ont été émis ce jeudi. Au total, 6 militants de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD sont sous les verrous au commissariat communal de la police à Nyabihanga. 5 parmi les 6 personnes sont accusées d'avoir blessé un homme à la machette sur la sous-colline Moussama de la colline Iteka. Une autre personne est accusée d'avoir violé sexuellement une femme sur la sous-colline Nyansio. Ces 4 co-accusés ont pris le large et sont introuvables. Cela s'est produit dans la nuit du dimanche et celle du lundi. Le chef de la colline Iteka, Régine Bahati, avait d'abord voulu que le dossier ne soit pas connu selon les sources sur cette colline. Encore sous traitement médical au centre Misuko de Moussama, une des victimes s'est tout de même déplacée pour accuser ses bourreaux devant l'officier de la police. Selon les mêmes informations, la victime aurait été intimidée par Adrien Hunzweni Mana, administrateur de la commune Nyabihanga, pour qu'il ne dise pas réellement comment il a été agressé. À l'issue de l'interrogatoire, l'officier de la police judiciaire a décidé la détention de ces Imbonerakure et que le chef de la colline fasse le nécessaire pour que les autres soient arrêtés et auditionnés. Selon les mêmes sources sur la colline Iteka, 4 de ces malfaiteurs ont fui. Les habitants de la colline Iteka s'inscrivent toujours en faux contre l'attitude impartiale de l'administrateur communal qui veut protéger les coupables et demande qu'ils soient plutôt punis conformément à la loi. Vous saurez que la province Mwaro est une des provinces qui est caractérisée par l'insécurité ces derniers jours. 7 personnes ont été tuées la semaine dernière. La radio Inzamba a cherché à joindre l'administrateur communal Ariel Honzoni Mana, mais sans succès.
Ce lundi 26 avril, c'est tout un pays qui se remémore la décision de feu le président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat inconstitutionnel à la tête du pays. C'était il y a 6 ans, en 2015. Plusieurs organisations de la société civile hostiles à ce troisième mandat ont organisé une conférence publique ce samedi. L'un des organisateurs, Vital Nshimirimana, qui est le délégué général du FORS, le Forum pour le renforcement de la société civile, indique qu'il est question d'évaluer aujourd'hui la justice burundaise accusé d'être au service de la répression politique dans le pays. On l'écoute.
Aujourd'hui, des panélistes vont nous parler tour à tour de ce qu'ils ont vécu. Ils vont faire des témoignages et sur les reconnaissances, sur les informations et, ou les points de vue concernant ce qu'ils ont vu durant les 6 dernières années, notamment ce qui concerne la justice qui est devenue un instrument du pouvoir pour réprimer les opposants au régime. Et on va également écouter les différents intervenants qui vont nous parler des perspectives d'avenir. Et parce que la lutte continue, bien que le troisième mandat est fini et qu'aujourd'hui il y a un autre régime qui malheureusement continue la même répression à l'endroit des opposants au régime, mais nous voulons continuer à nous mobiliser pour défendre la légalité constitutionnelle, les droits de l'homme et exiger un dialogue pour finalement trouver une solution adéquate et durable à la crise burundaise.
La situation préoccupante de l'indépendance de la justice et le non-respect des droits humains devraient s'améliorer avant la levée des sanctions prises par l'Union européenne au Burundi. Ce sont les propos de Maître Armer Nyongere, l'un des avocats qui ont saisi la ministre belge des Affaires étrangères et le commissaire européen de la justice. Suivez Maître Armer Nyongere dans cette interview qu'il a accordée à la radio Inzamba.
Dans cette correspondance, nous avons voulu attirer l'attention à ces autorités européennes par rapport aux problèmes majeurs de justice et d'état de droit auxquels les avocats représentant les victimes sont confrontés dans l'exercice de leur profession. Et nous avons montré comment depuis 2015, aucune enquête valable et crédible n'a été menée au Burundi concernant les crimes commis au préjudice des membres de l'opposition. Et notre message était de placer la question du statut des enquêtes indépendantes des autorités judiciaires à l'ordre du jour lors du dialogue entre l'Union européenne et les autorités burundaises par rapport à la reprise de la coopération. Et nous avons aussi attiré l'attention sur les faits de torture et de viol commis au Burundi par des titulaires de l'autorité publique. Nous avons évoqué qu'il est nécessaire que le Burundi adhère à nouveau au traité de Rome, créé à la Cour pénale internationale et collabore activement aux enquêtes en cours. Nous avons aussi demandé que ce soit à l'Union européenne ou à la Belgique de ne pas lever les sanctions sans qu'un agenda clair, concret, précis soit mis en place.
Inzamba.
Et cette brève concernant la sécurité routière, 15 personnes dont l'évêque du diocèse catholique de Bururi ont été blessées dans l'effondrement du pont se trouvant sur la rivière Mutsindozi. Les faits se sont déroulés sur cette rivière qui sépare les collines Muvumu et Kilama dans la province Makamba. L'évêque Salvatore Nicitereze a eu une fracture au niveau du bras et de la jambe selon les médecins. Il a été évacué vers l'hôpital Kira Hospital dans l'ancienne capitale Bujumbura où il a subi une opération chirurgicale. 14 autres fidèles grièvement blessés, dont une femme qui aurait avorté des suites du choc, sont à l'hôpital de Makamba. Cet incident s'est produit au moment où les fidèles accompagnaient Mgr Salvatore Nicitereze en traversant le pont à pied. Ils voulaient demander un soutien pour la construction de ce pont en mauvais état. L'évêque Salvatore Nicitereze venait de clôturer une semaine de visite dans toutes les succursales de la paroisse catholique de Makamba. Le gouverneur de la province de Mwaro, au centre du pays, a écrit au chef de la défense nationale, en d'autres termes le chef d'état-major de l'armée, pour lui demander l'accord de participation des militaires natifs de la commune de Rusaka dans une réunion de sécurité à l'intention de tous les natifs de cette commune qui est prévue ce dimanche. La correspondance a été favorablement répondue par le chef de la défense nationale. Cette démarche est interprétée par l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvignouvila, comme un mode de gouvernance basé sur la terreur érigée par le parti au pouvoir au Burundi. Il rappelle que les civils et les militaires sont régis par des règlements différents. En plus, il rappelle que les militaires sont engagés pour la défense nationale et non pour représenter leur localité d'origine. Je vous prie d'écouter Frédéric Bamvignouvila, l'ancien vice-président de la République.
Alors, la question qui se pose, c'est tellement une réunion tenue par un gouverneur. Le gouverneur, c'est une autorité civile. Et les forces de l'ordre mises à sa disposition, ce sont des policiers. Et il ne peut pas tenir une réunion qui comprend et des policiers, et des militaires, et des civils. Ça ne peut pas exister. En réalité, participer dans une réunion signifie quoi? C'est d'abord être là, répondre et écouter, poser des questions, mais aussi être lié par des conclusions qui vont être tirées à l'issue de cette rencontre. C'est ça, participer dans une réunion. Maintenant, un militaire, c'est quelqu'un qui est tenu par le code militaire, le règlement militaire. Alors maintenant, je ne comprends pas comment les deux autorités, une autorité civile et une autorité militaire, s'entendent sur la participation des militaires, soi-disant natifs d'une province. À mon avis, je crois qu'il y a peut-être une raison politique cachée. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'à l'approche des élections, on n'est pas à l'approche des élections, on a constaté des militaires haut gradés de telle province, de telle province, aller sillonner leur province pour travailler avec des militants qui font de la propagande. Le CNDD-FDD confond justement le fait que des civils qui étaient dans la guérilla ou d'autres qui sont aujourd'hui à l'armée ou à la police sont considérés de la même manière, comme c'était de leurs propres militants, leurs propres personnes qu'ils peuvent utiliser malaxer comme ils l'entendent, mélanger et trouver quelque chose qui puisse se comprendre. En tout cas, l'armée, c'est l'armée, régie par son règlement. Les civils sont des civils, régis par la loi civile, et par conséquent, il n'y a pas moyen d'entretenir une réunion, de les appeler, de les convoquer, de les inviter à participer dans une réunion tenue par un gouverneur de province. Ça ne peut pas se faire. Donc je crois qu'il y a quelque part de la confusion, une confusion savamment entretenue.
Le personnel de l'hôpital de Gitarani, en province Muyinga, réclame des primes de fonction mensuelles pour des prestations effectuées en dehors des heures de travail. Le directeur provincial de la santé à Muyinga a bloqué ses primes suite à un cas de vol observé dans cet hôpital il y a 2 ans. Il leur exige d'abord de payer la somme de 7 900 000 francs burundais, équivalent à la valeur d'un bistouri électrique volé. Ces employés de cet hôpital disent ne pas comprendre pourquoi on leur réclame de payer cette somme alors que les dossiers des présumés voleurs sont en train d'être traités par la justice. Suivez ce témoignage dont la voix a été modifiée pour des raisons de sécurité.
Il y a 2 ans, on a volé un appareil qu'on appelle bistouri électrique, utilisé dans le bloc opératoire. Après avoir volé cet appareil en 2019, les présumés voleurs ont été arrêtés et leurs dossiers sont en justice. Ce qui nous a étonnés, c'est qu'en date du 20 avril de l'année en cours, le directeur a convoqué une réunion urgente en Assemblée générale. L'objectif de la réunion était de nous dire que les travailleurs de l'hôpital n'auront pas la prime qu'ils obtenaient habituellement à la fin de chaque mois. On nous a dit que la prime servira à acheter un autre bistouri électrique en remplacement de celui volé en 2019. Les travailleurs de l'hôpital ont cessé d'exprimer leur mécontentement en disant au directeur qu'il s'agit d'une injustice. Il y a même de nouveaux travailleurs qui n'étaient pas encore là quand l'appareil a été volé, ce que nous jugeons d'incompréhensible. Le directeur nous a dit que la décision a été prise par le médecin provincial de la santé à Muyinga. Il a exigé qu'aucune prime ne soit versée avant de payer l'appareil volé. Ce qui nous étonne et que nous ne comprenons pas, c'est que l'on nous demande de payer l'appareil alors que les dossiers des présumés voleurs sont devant la justice.
Nous avons essayé de joindre le directeur provincial de la santé à Muyinga pour qu'il s'exprime sur ce sujet, mais sans succès. Et avant de clôturer ce journal, place au mini-magazine Au cœur de la société de tous les samedis. Nous vous parlons de la situation des réfugiés burundais en rapport avec la vaccination contre la COVID-19 à plus d'un mois du démarrage de la campagne dans le pays d'accueil au Rwanda. À la présentation de ce mini-magazine, Josine Kadze.
Au cœur de la société, Le Rwanda fait partie des pays qui ont pris les devants dans la vaccination de première heure de sa population contre la COVID-19. Avec une population d'environ 13 200 000 habitants selon les Nations Unies, ce pays de la communauté est-africaine héberge plus de 128 000 réfugiés et demandeurs d'asile, dont 53 000 Burundais. Quelle est la situation de ces derniers avec la vaccination contre la COVID-19? C'est ce que nous allons voir dans ce mini-magazine au cœur de la société du 24 avril 2021. À la présentation, c'est Josine Kadze. Bienvenue dans ce mini-magazine de la synergie des médias. Jusqu'au 20 avril 2021, le Rwanda a vacciné 349 702 habitants contre la COVID-19 selon les statistiques du Rwanda Biomedical Center. Le HCR s'est réjoui de voir que le pays a inclus les réfugiés et les demandeurs d'asile au début de la campagne. Plus de 416 réfugiés et demandeurs d'asile, dont ceux œuvrant en première ligne de la pandémie dans différents camps, ont reçu leur première dose de vaccin en mars dernier. Dans le camp de Mahama, qui comptait plus de 47 000 réfugiés au 31 mars, certains réfugiés, à l'instar de celui-ci, attendent avec impatience ce vaccin.
On entend dans les autres cas de réfugiés, par exemple le cas de transit des réfugiés libyens, on a déjà commencé à vacciner certains parmi les réfugiés qui sont là. Mais nous, dans notre cas de réfugiés de Mahama, le vaccin n'a pas encore arrivé, mais nous attendons avec courage ce vaccin de COVID-19 et nous sommes prêts à recevoir ce vaccin de COVID-19 et à être vaccinés.
Le président du comité des réfugiés burundais de Mahama, Jean Bosco Kwibishatse, espère que leur tour viendra.
Le programme de vaccination contre la COVID-19 est national, mais ici, dans le camp des réfugiés de Maham, on ne nous a rien dit jusqu'ici. Mais nous avons l'espoir et nous demandons que l'on pense également à nous comme la pandémie est partout. Ça nous permettrait de nous protéger, donc nous attendons peut-être qu'ils soient en train de faire des analyses pour que nous puissions nous aussi être vaccinés.
Selon la porte-parole du HCR au Rwanda, Elise Wilchelan, tous les réfugiés basés au Rwanda, y compris les réfugiés burundais, ne seront pas mis à l'écart. Seulement, ils devront se conformer au programme de vaccination et de priorisation déjà établi par le Rwanda. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Rwanda envisage de vacciner un tiers de sa population au cours de l'année 2021. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Nous nous sommes focalisés sur la vaccination contre la COVID-19 au sein des Burundais réfugiés au Rwanda. À la présentation du mini-magazine, c'était Josine Kadze. Au revoir et à la prochaine.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de votre attention. Excellent week-end et à la semaine prochaine.